to the sun, which tries to blind our eyes. Oh, we're dancing forever under the beautiful sky.
Bonjour à tous et à toutes, nous sommes dans le studio de Micro Rebelle dans la rubrique L'actualité vue par les jeunes. Pour rappel, nous sommes diffusés chaque dernier mardi du mois sur Radio Plus à Douvrin 104.3. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Luc, Jonathan, Océane et Mélissa. Aujourd'hui, nous allons débattre sur la question suivante. Faut-il se méfier des médicaments ? On se retrouve dans quelques instants. Restez branchés. Nous sommes de retour aujourd'hui pour vous parler des médicaments. Donc avant tout, on va faire un petit sommaire, en gros, dire de quoi on va parler. Donc Jonathan, de quoi vas-tu parler aujourd'hui ?
Alors moi, je vais parler de la définition sur le médicament. Ensuite, je vais présenter les différents types de médicaments. Et après, je vais finir mon côté avec quelques exemples des notions de rapport avec les médicaments.
Ok, donc après ça sera juste moi qui vais parler du coup de l'hypocondrie et de l'omniprésence des pharmaceutiques, notamment dans leur stratégie de business. Et après ça sera le tour de Luc.
Ouais, alors moi je vais parler d'un phénomène de toxicomanie assez massif aux États-Unis et qui est lié justement à l'origine à la prise et à la prescription de médicaments.
Alors, moi je vais parler donc de la phytothérapie, donc le fait qu'on puisse utiliser des plantes médicinales, ça pourrait être une alternative aux médicaments en fait.
Et à mon tour, pour terminer, je vais parler de l'efficacité de l'homéopathie.
Et du coup, on se retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale. Donc on vous laisse avec Elixir Style, Not Enough, à tout de suite.
Tell me when summer's back, sun bleached hair and sunburned back. Tell me when the long days are here, sunset evenings and night skies so clear. Please let the warm nights return, cause I deeply, deeply yearn to let a campfire burn. So love slips away, but in the summer it comes back to stay. Have you still not had enough? Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? Sunset picnic, we start walking through our district. We are listening to symphonies from singing birds with gorgeous melodies. Summer feeling surrounds us entirely. Enjoy everyone's serenity. Please let the warm nights return, cause I deeply, deeply yearn to let a campfire burn. So love slips away, but in summer it comes back to stay. Have you still not had enough? Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? Cause you've still not had enough. Have you still not had enough?
you've still not had enough? Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? 'Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? Worry, it gets you every year again. Are you waiting here for love? 'Cause you've still not had enough. Have you still not had enough?
Alors, rebonjour tout le monde, ici Jonathan et me voilà avec la définition des médicaments. Alors, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal, ou pouvant être administrée en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques, ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas, des preuves. Les produits utilisés par la désinfection des locaux et pour les prothèses dentaires ne sont pas considérés comme des médicaments. Lorsque eux égarent l'ensemble de ces caractéristiques, un produit est à la fois la définition du médicament prévu aux premiers alinéas et à celle d'autres catégories de produits régis par le droit communautaire ou national, il est en cas de doute considéré comme un médicament. Voilà la définition assez longue. Maintenant, je vous... Ah, oui, vas-y, Aurélie.
Et dans des mots plus simples, ça donne quoi? Parce que ah. Là, je t'avoue, j'ai pas tout compris.
Ouais, c'est quand même difficile. J'ai dit la définition, c'est la définition élargie du médicament. Vous pouvez, si vous voulez, regarder par vous-même sur Wikipédia, taper médicament. Pas de petites questions?
Ouais, d'accord, je vois. Non, c'est vrai que c'est un peu... excusez-moi du fou rire là, mais c'est un peu compliqué à... C'est un peu vraiment... c'est compliqué, quoi, ouais, à comprendre.
Mais au moins, c'est...
Au moins, c'est complet, hein.
Voilà, c'est complet, c'est scientifique, c'est très scientifique,
hein, pour moi. Je suis en littéraire, donc c'est assez abstrait pour moi, les médicaments, donc je vous cache pas que...
Non, en essayant de comprendre, on y arrive.
Oui, en essayant. Il faut vraiment se concentrer, vu que je suis pas... C'est vrai qu'il y a des mots qu'on comprend pas trop. Alors, je vois Jonathan qui me fait un petit signe.
Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Tu voulais expliquer les différents types de médicaments, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, comme j'avais dit dans le sommaire, on peut distinguer différents types de médicaments selon leur utilisation, leurs composants, leur mode d'enregistrement réglementaire. Il y a les médicaments génériques, il y a les médicaments biosimilaires, les médicaments orphelins, les médicaments biologiques... Après, il y a aussi les médicaments à base de plantes que Mélissa va parler dans sa chronique. Et il y a aussi les médicaments essentiels.
Alors, très bien. C'est quoi un médicament biosimilaire?
Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment regardé dessus, mais simplement... étant donné qu'on a du temps, en fait, je n'ai pas voulu trop faire... trop pavé, en fait.
Non, mais je te charrie.
Ouais, il y a beaucoup de catégories, donc c'est une catégorie, on va dire. Donc ça on ne va pas rentrer dans les détails. Donc du coup, je sais pas, est-ce que quelqu'un a des questions ou bien je peux enchaîner?
Non.
Non? Bon bah d'accord, j'y vais. Donc je vais parler de l'hypochondrie. Donc je vous parlais d'abord du malade imaginaire. Donc le malade imaginaire n'est pas seulement une pièce de Molière, c'est aussi une phobie, l'hypochondrie. Je suis sûre que vous avez déjà entendu une personne dans votre entourage, pardon, dire « Mais arrête, tu deviens hypochondriaque », c'est d'ailleurs la phrase que je dis souvent à Mélissa quand je suis avec elle.
Oh, bien sûr.
Parce qu'elle se lave approximativement 20 fois les mains par jour. Donc excessif, non. Vous dites, aujourd'hui, un des problèmes majeurs dans la société du moins occidentale est la mise en valeur de plus en plus flagrante des produits pharmaceutiques. Ça en devient presque un business, si cela n'en est pas déjà un. Parce que oui, aujourd'hui, il est même possible de se souscrire à un programme de fidélité. C'est ce que je racontais à Océane et Luc tout à l'heure. Un programme de fidélité par tranche de 70 euros achetés, dépensés, 5 euros sont offerts. Est-ce que c'est pas de la pure excessivité, une sorte d'hubris, de démesure du XXIe siècle?
Un mal de tête, du Nurofen. Un mal de gorge, Strepsil. Le nez bouché, Humex. Cela semble tellement naturel que ça en devient totalement un réflexe pour nous, pour tout le monde en général. Donc, il est vrai que je ne suis pas le meilleur exemple, je l'avoue. J'ai tendance à m'écouter peut-être un peu trop. C'est ce que disent mes profs en prépa, d'ailleurs. Donc, dans l'imaginaire collectif, tout comme dans le mien, toucher quelqu'un ayant la grippe, c'est comme l'attraper automatiquement à mon tour. Donc, réfléchissez quelques secondes à ça et osez me mentir droit dans les yeux. N'avez-vous jamais ressenti des symptômes identiques à ceux d'un ami vous ayant dit être malade? Je suis sûre que c'est le cas. Il ne me faut que, pour ma part, quelques jours avant de me convaincre que moi aussi je suis malade. Donc c'est un véritable problème, vous voyez, parce que l'omniprésence des pharmaceutiques, ça fait que nous sommes gavés en permanence de médicaments, comme s'ils avaient toujours existé depuis la nuit des temps, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, je vais vous poser une petite question, à tout le monde du coup. Pensez-vous qu'aujourd'hui les médicaments jouent un rôle fondamental dans votre vie? Pourriez-vous sincèrement vous en passer? Et pensez-vous que les pharmaceutiques fragilisent la société? Jonathan?
Alors moi oui, étant donné que je suis jamais malade. Bon, faut jamais dire jamais, donc les médicaments je peux en passer parce que je n'en prends jamais, tout simplement. Alors moi je sais pas qui pourrait prendre la parole.
Moi, je suis assez d'accord avec toi. J'évite au maximum de prendre des médicaments. Enfin, disons que c'est en dernier recours. Et j'essaye aussi d'aborder les maladies qui me touchent par les médecines alternatives aussi, dès que possible, pour éviter des... Il y a aussi des phénomènes d'accoutumance avec les médicaments, quoi. Là, comment on appelle ça, je sais pas, pharmacorésistance, peut-être, un truc dans le genre-là. À force de prendre le même médicament... notre corps s'y habitue et le médicament est moins efficace. Et ça, c'est des phénomènes qui, je pense, n'existent pas forcément avec les plantes.
Moi, c'est vrai aussi que, généralement, si je prends des médicaments, c'est vraiment par obligeance. Généralement, je laisse plus mon corps se développer des petites... comment dire, des forces par lui-même et de guérir par moi-même, généralement.
Alors oui, effectivement, je rejoins ce que vous dites, parce que les médicaments, c'est bien, mais c'est dans une certaine mesure, en fait. C'est vraiment, si on est malade, par exemple, si vous avez une angine, bon, les plantes, c'est bien, mais ça peut pas non plus soigner une grosse angine si elle passe pas, quoi. Donc parfois, les antibiotiques, ça peut être efficace.
C'est faux.
Vas-y, désolé, alors.
Les plantes, ça peut tout à fait soigner une angine.
Ça dépend quelle plante.
Et il y a plein de médicaments, je pense, qui sont assez inutiles. Si, par exemple, on a un rhume.
Ouais.
Bah, un rhume, ça dure quelques jours, on va dire. Et en fait, qu'on prenne des médicaments ou pas, on aura quand même le rhume pendant quelques jours et il va partir. Je veux dire, en général, on meurt pas d'un rhume. Donc bon, c'est simplement on prend des médicaments pour atténuer les symptômes.
Après, je pense aussi que, bon, pour ma part, je pense aussi que c'est dû aussi à l'éducation et au fait qu'on peut être plus ou moins sensible à la consommation au niveau des pharmaceutiques. En effet, par exemple, je pense que aujourd'hui, c'est aussi un désir, ça vient aussi du désir de vouloir tout de suite. J'en parlais dans la dernière émission sur la drogue, et je pense que si, ici, aujourd'hui, ça rejoint aussi ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, être malade, personne en général n'aime être malade, mais je pense que ça fait aussi qu'on veut guérir tout de suite. Et on pense que les médicaments, ça nous fera guérir tout de suite, alors que finalement, c'est quand même un processus, un peu comme les plantes dont on va parler Mélissa, c'est un processus et ça, du coup, comme le mot le dit, en fait, ça prend plus ou moins du temps qu'on prend, comme dit Luc, un médicament pour le rhume ou qu'on n'en prenne pas. Je pense aussi que ça réduit les défenses immunitaires, en fait, de prendre beaucoup de médicaments. Et il y a l'accoutumance dont parlait Luc.
Ouais, et... Je pense à deux choses par rapport à ce que tu dis et par rapport à ton intervention. C'est que effectivement il y a une question de confort, c'est-à-dire qu'on prend des médicaments non plus forcément pour se soigner, mais pour éviter simplement des désagréments. Et après, il y a le problème du marketing autour des médicaments. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal de faire de la pub pour des médicaments alors que normalement, on ne devrait en prendre que pour se soigner? Donc, c'est-à-dire que s'il y a un besoin réel et pas selon une espèce d'incitation à la consommation.
Ouais, c'est vrai ce que tu dis, Luc, c'est tout à fait vrai. Puis il y a aussi d'ailleurs le fait que aujourd'hui, on développe de plus en plus des médicaments qui franchement ne servent pas à grand chose. Ça sert à quoi d'avoir 10 000 sirops pour la toux alors que y en a déjà un qui fait le bon job. Je pense aussi que les pharmaceutiques aujourd'hui ils gagnent moins d'argent, alors du coup ils vendent de plus en plus. Moi je vois régulièrement des efferalgans qui sont vendus. Donc on en a en poudre, on a les doliprane, les Advil, les Nurofen. Bon. D'accord, je suis d'accord pour les gens qui sont par exemple allergiques à telle substance. Bon, d'accord, je peux comprendre qu'on crée par exemple un dérivé du doliprane avec l'Advil, mais franchement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de développer autant de médicaments aujourd'hui, quand on rentre dans une pharmacie, c'est le mythe Carrefour, quoi. Donc bon, au bout d'un moment, il faut peut-être se remettre en question sur ça devient un marché mondial.
Bah, peut-être s'il y a des dérivés de médicaments, par exemple le doliprane, peut-être certaines personnes n'arrivent pas à supporter le doliprane, admettons. Ils sont obligés de prendre le dérivé pour se soigner. Parce que sinon, ils n'arrivent pas, en fait. Moi, je pense ceci.
Puis je suis d'accord aussi que ce soit en vente libre. Par exemple, il me semble que le Nurofen, je ne suis pas sûre du tout. Il me semble qu'il y a des médicaments, des efferalgans qui sont en vente libre et d'autres qui ne le sont pas. Et je pense qu'en fait, c'est vrai que ça, dans un cas ou dans un autre, ça peut être assez... ça peut être utile parce que, par exemple, on ne va pas toujours aller chez les médecins si on a mal à la tête, par exemple. Enfin, après, je pense aussi, par rapport au marketing... Le fait que vendre autant, ça crée aussi beaucoup de gaspillage. Donc je vois souvent qu'il y a des événements où on peut ramener les médicaments qu'on n'utilise pas ou les médicaments périmés. Mais en fait, concrètement, on nous donne 3 boîtes de Doliprane, alors que par exemple, on en a besoin que de 1 ou 2. Ou bien que moi, par exemple, si j'ai la grippe, j'utilise les Doliprane. Mais si j'ai un rhume ou bien j'ai un mal de gorge, je ne vais pas forcément penser à prendre du Doliprane. Et du coup, ça reste dans mes placards et du coup, je ne l'utilise pas. Et finalement, ça finit périmé. Est-ce que ça rime à quelque chose de vendre encore en termes de plaquettes et en termes de boîtes au lieu de vendre en termes d'unités, je pense. Ce serait peut-être plus avantageux au niveau du prix, mais aussi au niveau du gaspillage, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Il n'y a pas certaines pharmacies qui vendent à l'unité par hasard ? J'ai entendu parler par des collègues, bien sûr, que justement, qu'il y a certaines pharmacies tu peux acheter à l'unité, par exemple, comme Doliprane.
Ah, je sais pas du tout, mais là, vraiment, tu poses une question. Je pense que bon, on est capable de vendre des pâtes à l'unité dans des grands distributeurs. Donc, je pense que les médicaments, ça peut faire un peu pareil. De toute façon, c'est déjà un marché mondial. Donc, pourquoi pas Bon, Mélissa ?
Le souci, c'est que si on commence à vendre à l'unité, exemple des personnes qui vont être malades et qui n'ont pas leurs médicaments chez eux directement, ils vont devoir se déplacer pour pouvoir acheter les médocs. Tandis que si c'est déjà dans une plaquette et s'ils veulent les réutiliser, ça peut être plus efficace, je pense.
Mais c'est aussi la question qui se passe par rapport au gaspillage. Par exemple, moi, quand je vais chez le médecin et que j'ai déjà du Doliprane chez moi, ma mère, elle va quand même prendre à la pharmacie les boîtes qu'on lui prescrit parce que, voilà. Et ça, c'est pas une attitude responsable. Je pense qu'on devrait aussi sensibiliser plus les gens au fait du gaspillage. Enfin, clairement, ça sert à rien d'avoir 3 grosses caisses de médicaments si au final, on en reprend tout le temps et que le jour où on en a vraiment besoin, bon, soit on les trouve pas, ou soit on en rachète parce qu'on les trouve pas, justement. Donc, c'est aussi une vraie question. Est-ce qu'on doit plus responsabiliser aussi les citoyens par rapport aux médicaments ?
Bah ouais, carrément. Puis si jamais on en a chez nous, et ben on dit non aux pharmaciens ou aux médecins qui souhaitent nous en prescrire à nouveau, c'est tout.
Ça, on peut déjà le faire.
Oui, bah oui.
Quand on me donne une ordonnance, au final, je vais chez le pharmacien et je lui dis non, ça j'en veux pas, je l'ai déjà. Ouais. Ça j'en veux pas parce que j'ai pas envie de le prendre. Donnez-moi que celui-là. Et moi, c'est ce que je fais.
Après, je pense aussi que c'est quelque chose qu'on devrait développer de plus en plus. Enfin, je vois par exemple dans ma pharmacie qu'ils font des pubs, mais c'est pas le cas dans toutes les pharmacies. Et finalement, bon bah, ça devient un problème. On devrait plus, au lieu de marquer les pubs pour les Doliprane à la télé, on devrait faire des pubs pour si vous avez des médicaments en trop, aller les ramener à la pharmacie ou bien les médicaments qui sont périmés. Donc du coup, ben voilà.
Bah, je crois que ça existe déjà. Hein.
Ouais.
La récupération. Ouais, il y a même ça a un nom, Cyclamed.
Ah, ça s'appelle,
c'est
tout.
Le réseau de recyclage des boîtes de médicaments. Et je crois qu'ils font de la pub à la télé. Mais je ne regarde pas trop la télé.
Je trouve qu'ils ne doivent pas faire beaucoup de pubs parce que je les vois. Après, je ne regarde pas souvent la télé.
Il y a moins de pubs pour le recyclage des boîtes de médicaments que pour les médicaments en eux-mêmes.
Ah oui, c'est sûr. Après, ça dépend d'où l'argent vient aussi. Je pense que les pharmaceutiques sont quand même déjà assez fortunés pour faire beaucoup de pubs.
Bah, alors, on va parler des industries pharmaceutiques, justement. C'est ce que c'est le. J'enchaîne, hein, parce qu'on ne va pas non plus parler tout le temps de la même chose. Alors. Overdose sur ordonnance. C'est le titre de cet article paru dans le numéro du Monde Diplomatique et que je relais aujourd'hui puisqu'il montre le versant diabolique de l'industrie pharmaceutique et du lobbying qui va avec, ainsi que de la complaisance des institutions sanitaires. Parce qu'il faut aussi les remettre en cause à l'occasion. Donc le tableau est sordide, avec en toile de fond l'Amérique des campagnes, des petites villes rurales noyées dans l'immensité du territoire et avec sur le devant de la scène la population blanche des classes moyennes. Donc jusque-là, tout va bien, sauf quand le dénouement finit à la morgue. Donc c'est le point de départ de cet article de Maxime Robin. On est dans l'Ohio, état de l'Est des États-Unis, qui, qui connaît depuis plusieurs années une vague d'overdose sans précédent, avec des victimes de tous âges, sexe, classe sociale, couleur de peau, au point que Trump ait décrété pendant sa campagne un état d'urgence sanitaire. À l'échelle du pays, il faut savoir que 65 000 personnes sont mortes d'overdose. C'est plus que les accidents de la route, 35 000, ou les décès par arme à feu, 38 000. Et on sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui meurent par arme à feu. Là, vous vous dites, en parlant d'overdose, que je m'égare et que la drogue, c'était le thème de la semaine dernière. Mais pas du tout, car l'ampleur de ce phénomène est due principalement aux professionnels de la santé et aux labos pharmaceutiques. Voilà comment ça s'est passé brièvement. Donc ce sont les médicaments délivrés sur ordonnance qui ont fait découvrir les opiacés à une population qui jusque-là n'était pas touchée par les drogues, par les problèmes de drogue. Et ça s'est passé avec plein de bons sentiments puisqu'il s'agit effectivement au départ de faire disparaître la douleur. Donc les opiacés, c'est les médicaments, les substances dérivées de l'opium, qui est une plante. Donc la boîte de Pandore est ouverte voilà, il y a une vingtaine d'années par des laboratoires pharmaceutiques dont Purdue Pharma et sa pilule OxyContin, un analgésique antidouleur donc, puissant dérivé de l'opium. Médoc qui, si au départ était réservé aux malades du cancer, a fini par être distribué pour des raisons de confort à la moindre souffrance. En 1996, Purdue Pharma lance une campagne agressive de lobbying. Il déploie plus de 700 représentants sur tout le territoire pour vendre les mérites du produit. Il lance des campagnes publicitaires, on vient d'en parler, des vidéos, des brochures, etc. Offre des prescriptions gratuites de médicaments. Et ça marche, parce qu'en 4 ans, les recettes sur l'OxyContin passent de 45 millions de dollars à 1 milliard. Ce qui n'est pas rien. Tous les États-Unis consommaient ce genre de produit. Car c'était pas le seul, créant un phénomène de dépendance et de mortalité énorme. Depuis 1999, 200 000 Américains seraient morts d'overdose d'OxyContin ou de produits équivalents. Donc, tout un réseau de distribution sans racine, avec arnaque à l'assurance maladie, médecins complaisants, revente sur le marché noir. Il faut savoir qu'en 2012, dans l'Ohio, toujours, 793 millions de doses ont été prescrites. En une seule année. Et dans cet état, l'OxyContin est même dans certaines villes devenu monnaie d'échange. Les institutions ont tardé à réagir et quand elles l'ont fait, il était déjà trop tard et les patients devenus drogués se sont rabattus sur l'héroïne, moins chère, ou sur des médicaments chinois achetés sur le net, encore moins chers et beaucoup plus puissants, tels le fentanyl ou le carfentanyl. Donc pour terminer, l'auteur de cet article, qui je le rappelle s'appelle Overdose sur ordonnance, compare le problème à un monstre à plusieurs têtes, héroïne, pilule sur le net, médicaments sur ordonnance, avec pour effet de remplir les morgues, les tribunaux, les centres de désintoxication et les poches des laboratoires pharmaceutiques ou des narcotrafiquants, à moins que ce ne soit la même chose. Réaction ?
Donc je vais commencer avec ma petite réaction. Donc je pense que ton article est d'abord, ton intervention est très très intéressante, je trouve, comme chronique. Et ça me fait penser au fait que, par exemple, on prend pas assez en considération, on prescrit un peu tout et n'importe quoi. Comme tu le disais à la fin, il y avait des prescriptions plus ou moins gratuites. Et je pense notamment aux personnes qui sont aujourd'hui en dépression et le fait qu'on leur fournit beaucoup de médicaments antidépresseurs. Et enfin, je trouve que c'est pas un service très... c'est pas en termes d'utilité, mais je trouve que c'est pas très efficace parce que donner, toujours donner et finalement donner que ça, ça aide pas vraiment ce type de personne, enfin cette tranche de la population qui se sent mal, ce genre de choses et qui pourrait éventuellement se rediriger vers ce type de produit. En plus, le fait que, pour moi, les antidépresseurs, c'est de la drogue plutôt légalisée. Je sais pas si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou que vous niez entre guillemets cela, mais pour moi, comme tu parlais de ton article le médicament, je me souviens plus du nom, par contre désolé.
Sur ordonnance,
voilà.
Overdose sur ordonnance.
Overdose sur ordonnance. Je pense que aujourd'hui, même si ça s'est passé aux États-Unis, mais en France aussi, je veux dire les antidépresseurs pour moi c'est une sorte d'overdose aussi sur ordonnance. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais
L'overdose, c'est quand on meurt.
Oui, bah oui, mais je veux dire, bon, on meurt pas, mais je veux dire, donner des antidépresseurs, c'est un peu comme, c'est donner de la drogue, enfin, c'est donner un moyen de se droguer et de créer de la dépendance, finalement. Donc, je pense que ça rejoint un peu aussi le thème de ton article. Quoique les gens n'en meurent pas, je pense pas encore. Enfin, quoique peut-être, hein.
Mais Luc, par contre, j'ai pas compris, du coup, ce sont les États qui légalisent cette overdose, en fait enfin...
Bah, disons que... C'était un médicament, et effectivement, l'État a légalisé le fait... Enfin, il a été très complaisant vis-à-vis de ce laboratoire pharmaceutique, vis-à-vis du fait qu'on puisse le distribuer pour tout et rien, pour un mal de dents, alors que c'est une cheville foulée. C'est un médicament ultra puissant, dérivé de l'opium, tout comme l'héroïne, je le précise. Donc, l'État a effectivement légalisé le fait qu'on puisse distribuer ce médicament à une échelle... énorme, quoi. D'être entendu, 793 millions de doses en une année qui ont été prescrites, alors qu'à la base, c'est un médicament ultra puissant qui n'est utilisé que dans des cas de cancer. Donc effectivement, l'État est en cause, hein. Bon, aujourd'hui, il y a un procès qui est intenté à cette industrie pharmaceutique pour, parce que c'est un crime, en fait. C'est carrément une escroquerie et un crime. Mais bon, l'État est en cause, les médecins sont en cause parce qu'ils les ont, ils ont favorisé ce système-là. Et évidemment, l'industrie pharmaceutique Purdue Pharma est pleinement responsable parce que c'est elle aussi qui, dès le départ, a fait des campagnes. Ils ont monté des cliniques exprès pour pouvoir distribuer le truc. Ils ont offert les médicaments, ils ont incité les médecins à le faire. Enfin.
Comme quoi, avec de l'argent, on peut vraiment tout faire. c'est la réflexion que je me faisais. C'est vrai que les lobos, enfin tout ce qui est pharmaceutique, en général, c'est tenu par des personnes très puissantes qui peuvent à peu près tout faire. Hein. Ce qui est, c'est un gros problème de société, on va dire, le fait que il puisse se passer ce genre de choses, quoi. Océane, il me semble que tu voulais dire quelque chose.
Ouais, bon, ça n'a pas trop de rapport à ce que tu voulais dire, mais...
Vas-y.
Moi, je voulais rajouter aussi comme quoi qu'encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de médicaments, sûrement un peu moins puissants que celui-ci, qui créent beaucoup de dépendance chez les personnes, notamment chez les personnes qui doivent prendre, par exemple, des médicaments à vie. Je parle pas des personnes, par exemple, qui ont des problèmes cardio ou autres. Et notamment, en fait, ça leur met dans une... comme dans un effet secondaire, mais permanent, ils sont tout le temps en train d'endormir, et dès que finalement ils prennent pas leur médicament ou qu'ils l'oublient, finalement, ils sont plus du tout eux-mêmes, quoi. Et c'est vrai que ça aussi, en fait, ça peut aussi dériver sur d'autres dépendances par la suite, je pense.
Ouais, enfin là, il y a deux choses de ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre un médicament,
oui.
Sinon ils mourraient.
Oui, mais...
Donc ça, forcément, ils sont dépendants à ce médicament, c'est leur vie, et leur vie est en jeu. Après, il y a effectivement le fait, comme tu disais, avec les antidépresseurs, Aurélie, ouais, où effectivement, au départ, c'est fait pour te soigner, et au final, t'es accro. C'est le cas de l'oxycontine, là, c'est pareil. Au départ, c'est fait pour te soigner, une douleur, et au final, t'es accro à des opiacés, et tu te shootes à l'héroïne, et...
Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi, je rejoins un peu ce que disait juste avant Océane. Je pense que ce que tu veux dire aussi, c'est peut-être le fait qu'on peut s'en passer quelque part. Enfin, je veux dire, les personnes qui sont en dépression, ce genre de choses, c'est peut-être pas le meilleur moyen de les droguer aux antidépresseurs, de les aider, par exemple. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui est dépressif depuis 5 ans, par exemple, admettons, shooter, entre guillemets, c'est un grand mot, mais shooter aux antidépresseurs tout le temps, est-ce que finalement il va sortir sa dépression un jour? Je pense pas vraiment. Par exemple, ma grand-mère, elle a eu, enfin, c'est un petit exemple de ma vie, du coup. Ma grand-mère a eu une dépression suite au décès de son mari, du coup. Elle a fait une dépression, elle a eu des antidépresseurs. Et en fait, elle a été voir un médecin, et du jour au lendemain, en fait, le médecin lui a dit que ça servait vraiment, enfin, ça servait pas à grand-chose de se gaver, entre guillemets, d'antidépresseurs, qu'il fallait reprendre goût à la vie, en quelque sorte, et trouver d'autres méthodes. Donc, elle, ce qui l'a aidé, personnellement, ce qui l'a aidé, c'est la radio. C'est d'écouter la radio, elle écoute France Horizon, il me semble, tous les matins, et encore aujourd'hui, même la nuit, enfin la nuit, je crois qu'elle éteint quand même sa radio, mais il lui a dit qu'il fallait jamais éteindre la radio, et ça faisait un peu de bruit dans la maison, et ça l'a aidé à se reconstruire, et vraiment, c'est à ça qu'elle doit, comment dire, sa guérison, entre guillemets, donc je pense qu'il y a d'autres méthodes quand même.
Vive la radio, alors.
Ouais, hein, la radio. Rappelle, oui, c'est un peu le message aussi.
On est micro-rebelles, hein, donc les émissions, c'est sur micro-rebelles.fr, rediffusées tous les... dernier mardi de chaque mois sur Radio Plus à Douvrin, le 104.3. On fait une pause musicale ?
Allez, on fait une pause musicale. Donc, on va vous laisser avec la musique d'Erling X-Rated. Je l'ai bien dit là ?
Ouais, j'ai lancé un peu tôt. X-rated.
C'est pas presque.
Salut tout le monde. Alors tout à l'heure, on a pu constater que les médicaments, ça pouvait pas être super top pour la santé. Donc maintenant, si on s'intéressait aux plantes, donc plus précisément à la phytothérapie. Alors la phytothérapie, ça vient du grec phytos ou pythos, comment ça se dit Aurélie? Tu fais du grec?
Ça dépend comment ça s'écrit.
P-H-Y-T-O-S.
Je dirais phytos.
Ouais bah phytos qui signifie plante et thérapeu. Ouais, qui signifie soigner. Donc en fait, la phytothérapie, c'est une médecine fondée sur les extraits de plantes et les principes actifs. Donc par ailleurs, la phytothérapie, du coup, ça use de plantes médicinales. Donc en fait, une plante médicinale, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une plante, ou une partie d'une plante, qui possède des substances appelées principes actifs, pouvant être utilisées à des fins thérapeutiques, sans effet nocif, aux doses recommandées. Donc bien sûr, respectez la posologie, qui est en fait, c'est le dosage qu'on vous conseille lorsque vous vous soignez. Alors, donc selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, donc bien que la médecine moderne soit bien développée presque partout dans le monde, une proportion non négligeable de la population dans les pays en développement compte encore sur les tradis praticiens. Donc en fait, c'est les spécialistes qui conseillent, enfin qui prescrivent les plantes. Je crois que c'est ça, Luc. Hein.
Ouais, je sais pas. Ouais, bah, c'est une espèce c'est de néologisme que j'avais jamais entendu. Alors,
Ouais, bah, c'est selon l'OMS. Alors, ensuite, donc du coup, encore sur les tradis praticiens, les plantes médicinales et les médicaments à base de plantes pour leurs soins de base. Donc, en outre, au cours des décennies passées, l'intérêt public pour les thérapies naturelles a considérablement augmenté dans les pays industrialisés, en même temps que l'utilisation des plantes médicinales et des médicaments à base de plantes. Donc, oui, aujourd'hui, on souhaite adopter un mode de vie plus sain et donc se soigner avec des plantes. Donc, je vais vous parler donc de plantes qui peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques. Donc, parce qu'en fait, j'étais à une visite guidée donc dans un jardin botanique à Tourcoing. Et donc, du coup, ils nous avaient conseillé des plantes pour nous soigner. Donc, par exemple, la lavande, ça peut être utilisé comme une huile relaxante et aussi contre les piqûres de guêpe. Vous avez aussi la tisane à la sauge. Donc, c'est bon pour les digestions, la transpiration excessive, pour les bouffées de chaleur. Et aussi la décoction de sauge, ça peut être utilisé contre les aphtes. Donc vous avez aussi la mélisse, qui est très bonne pour l'anxiété, la nervosité, les troubles du sommeil. Et vous avez aussi le thym, qui est bon pour contre les rhumes et les mauvaises digestions. Et enfin, vous avez par exemple le pissenlit. Donc en fait, sa racine, elle est employée pour soigner les troubles digestifs et hépatiques. Et tandis que ses feuilles fraîches, elles sont dites dépuratives. Donc attention par contre, quand vous utilisez des plantes, il est toujours conseillé de demander un avis du médecin ou même de son pharmacien. Puisque en fait, la prise de plantes avec des médicaments, par exemple, peut entraîner l'interaction des deux principes actifs et provoquer l'apparition d'effets secondaires, parfois graves. Donc, l'usage de nombreuses plantes médicinales est par ailleurs contre-indiqué aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 12 ans. Donc voilà, donc faites attention quand vous prenez des plantes, surtout c'est important. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez finalement de la prise des plantes? Est-ce que vous en prenez vous-même?
Bon, moi je veux bien commencer. Ouais, moi j'ai une armoire aux plantes chez moi. Cool. J'ai tout ce que tu dis là, j'ai du thym, j'ai de la sauge, tu parlais de l'angine. Moi quand j'ai une angine, je fais une décoction de sauge et je fais des gargarismes, tu sais quand tu glougloutes avec le fond de ta gorge. Bah, et je fais ça une journée et mon angine passe, dès que je commence à avoir mal à la gorge. Et j'ai tout un tas de petits remèdes, j'ai des huiles essentielles. Bon, des fois, je pense que, je crois que c'est Voltaire qui disait ça, Voltaire ou un des philosophes du siècle des Lumières qui dit « passer un certain âge ». On est censé capable de se soigner de la plupart des petits maux. Je veux dire, des blessures, les petites maladies. En fait, c'est parce qu'on est tenu ignorant de beaucoup de choses, mais on peut se soigner assez facilement.
Alors, Missa, j'ai une petite question pour toi. Peut-être aussi la question que se posent les auditeurs. Où est-ce qu'on achète ces plantes, en fait?
Alors, tu peux les acheter en pharmacie. Tu peux aussi les acheter dans les supermarchés, parce que parfois ils vendent les plantes sous forme de sachets en fait, et que tu peux faire sous forme de tisane en fait.
Et du coup, question à Luc, comment tu utilises tes plantes, enfin, les plantes en fait, où tu les achètes comment tu les utilises?
Donc il existe encore quelques herboristeries,
oui.
Où là normalement c'est un magasin, c'est une espèce de pharmacie spécialisée pour les plantes. Il y a des pharmacies qui vendent les plantes, ça arrive encore. Après il y en a très peu qui s'y connaissent, que ce soit les médecins ou les pharmaciens, il y a très peu de gens qui s'y connaissent. Après, sur Internet, il y a des sites très bien sur Internet. Par contre, acheter des plantes de qualité, biologiques, qui n'ont pas séché pendant... sinon, ça n'a pas d'effet. Quoi. Si elles sont séchées, récoltées n'importe comment, si elles ne sont pas bio, on s'intoxique. Faut pas acheter n'importe quoi, les premières plantes. S'il n'y a pas de traçabilité, je veux dire, on n'achète pas trop les plantes. Et après, un des principaux usages des plantes, c'est la tisane.
Et est-ce que tu aurais une petite bonne adresse pour nous, éventuellement, et pour les auditeurs?
Non. Non, non, non parce que si, j'en ai une, mais c'est à Ouattrolo. C'est pas très loin de Tourcoing, du jardin botanique. Là-bas, il y a une herberie, ça s'appelle herberie Cousin Viam. C'est un peu loin, donc moi, j'allais là-bas avant, parce que j'habitais près de Ouattrolo. Donc j'allais là-bas, et eux, en plus, ils s'y connaissent. C'est des encyclopédies, les personnes qui vendent les plantes.
Ah, et par ailleurs, vous pouvez utiliser les plantes sous forme de décoction, sous forme d'infusion et aussi sous forme de gélules. Donc moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand je commence à sentir que je suis vraiment prise au niveau de la gorge, je prends du pélargonium sous forme de gélules, donc c'est Arco Pharma. Et ou alors, en hiver, pour me prévenir contre les infections hivernales, je prends donc de l'échinacée, donc ça booste le système immunitaire, et je prends aussi du goji, donc là, c'est très bon pour vous booster, en fait, pour avoir la pêche.
Et concrètement, est-ce que tu vois des effets et est-ce que tu as confiance en Arco Pharma, par exemple? Parce que c'est quand même produit par un pharmaceutique. Oui. Donc, est-ce qu'on peut avoir confiance en ce pharmaceutique? Parce que je crois quand même que ça doit être quand même quelqu'un qui détient, il y a quand même quelqu'un qui est en haut d'Arco Pharma. Et je pense que ça doit être quand même... Je pense, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais ça doit être une filière, en fait, de ce pharmaceutique. Donc, est-ce que tu es renseignée là-dessus ou bien...
Je ne me suis pas forcément renseignée, mais pour avoir pris plusieurs fois ces gélules, j'ai totalement confiance parce que franchement, ça marche. Je me rappelle, parfois, j'étais vraiment pas bien. Je commençais j'avais du mal à avaler parce que je commençais à avoir une angine. Et quand je prenais du pélargonium, ça marche super bien. Enfin, franchement, je conseille. Mais bien sûr, demandez l'avis de votre médecin.
Parce que, après, je comprends que ça soit efficace. Les médicaments, en général, tous les médicaments sont censés être efficaces. Mais est-ce qu'on peut avoir confiance? Ça, c'est notre question. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est naturel, entre guillemets? Parce que c'est ce que recherchent les gens, généralement.
Ce sont des plantes, finalement.
Et du coup, on va pouvoir, je pense... continuer sur la question du naturel en parlant de l'homéopathie. Et ça, c'est Océane qui va nous en parler avec sa chronique. On t'écoute.
Ouais, donc effectivement, je vais parler aujourd'hui de l'homéopathie. Donc l'homéopathie, c'est quoi? C'est une substance diluée dans l'eau ou dans l'alcool qui a effectivement pas d'effet secondaire, c'est ça qui est bien, je pense, mais qui fonctionne à long terme. C'est-à-dire que contrairement aux médicaments, l'effet ne sera pas instantané, bon, malgré que les médicaments, il faut reconnaître qu'on met quand même que quand on en prend, on n'est pas non plus guéri le lendemain. Mais contrairement aux médicaments, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est ça qui est bien. Et le problème c'est que je vais relever aujourd'hui, c'est que je trouve qu'il n'est pas assez reconnu par tous les médecins encore aujourd'hui. Et c'est ça le problème, parce que d'après eux, c'est étant donné que la substance est diluée, la plante perd un peu de son efficacité. Et par exemple, aujourd'hui, je voudrais vous poser la question, c'est avez-vous déjà eu recours tout d'abord à l'homéopathie, et d'après vous, est-ce que c'est efficace?
Donc je vais commencer. Donc moi, j'ai eu recours à l'homéopathie quand j'étais un peu plus jeune, je devais avoir 13-14 ans, parce que j'avais une phobie scolaire. Et au lieu de prendre des médicaments, c'était une phobie scolaire, quoi, mais on m'a prescrit de l'homéopathie. Donc faut savoir que ça se vend, il me semble, sans ordonnance. Enfin, ça dépend en fait de l'homéopathie dont il s'agit, mais la plupart est vendue sans ordonnance. Donc j'avais essayé, je ne sais plus du tout le nom par contre. Et c'était fait pour se détendre en fait et moins être stressé. Et personnellement, ça a plus ou moins marché. Après, je pense aussi que c'est un travail de fond. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un travail aussi intérieur à faire derrière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de prendre le médicament et de ne pas se mettre dans les conditions pour le prendre. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre ton médicament dans le métro, bondé, collé contre la vitre, quoi. Je veux dire, il faut le prendre dans un endroit plus ou moins calme, chez toi, avant de partir, et dans dans une condition psychologique convenable. Après, il y a aussi l'homéopathie qu'on utilise pour... Les fumeurs, donc ça c'est quelque chose que j'avais envisagé pour un de mes amis. Donc alors les pharmaciens vous diront que c'est pas efficace. Moi j'avais vu ça dans Top Santé, il me semble, donc c'est pas vraiment une référence, mais plus ou moins voilà, c'est ma grand-mère qui me l'avait dit parce qu'elle a fond sur tout ce qui est homéopathie. Donc c'est une sorte de combinaison de plusieurs homéopathies pour créer plus ou moins un remède, entre guillemets. C'est pas vraiment un remède, faut savoir que comme tu le disais, c'est sur long terme, donc il faut pas s'attendre à un remède miracle. Et je pense que c'est le souci aujourd'hui, c'est que l'homéopathie, elle est totalement discréditée au niveau des médecins, parce que ça marche pas tout de suite, parce que c'est pas efficace d'un coup. Mais comme le disait Mélissa, les plantes, c'est comme les plantes. Enfin, l'homéopathie, c'est un peu comme les plantes. Et c'est sur le long terme quand même. Ça se fait pas tout de suite. C'est un processus. Après, Je sais pas. Quelqu'un a quelque chose à dire?
Bon, après, je pense que vous pouvez quand même prendre vos granules dans le métro. Hein. C'est juste à faire fondre sous la langue.
Oui, oui. Mais... J'ai dit ça comme ça, tu vois, pour rigoler. Mais je dis, en gros, il faut se mettre dans des conditions psychologiques, tu vois. Je veux dire... À un moment donné, si t'es stressé, va pas dans une situation hyper stressante et de gober de gélules en espérant que ça va passer tout de suite. Ça marche pas comme ça. Voilà.
Et justement, quand on dit que c'est un traitement de fond, c'est tout à fait vrai, parce que le souci, c'est que si vous n'êtes pas assidu, si vous continuez pas à prendre vos granules dans le temps, forcément, ça va pas fonctionner. Et si vous arrêtez d'un coup, c'est mort. Donc vraiment, soyez assidu quand vous commencez à vous soigner avec de l'homéopathie.
Moi, je vais revenir sur ce que tu as dit. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai aussi eu des problèmes de stress dus au cours et tout. Et le truc, c'est que quand j'étais au médecin, la première chose qu'il m'a prescrit, finalement, c'était du Stresam, au lieu de l'homéopathie, justement. Et quelques temps après, j'étais le revoir, il m'a fait « Oui, mais il est pas bien, c'est pas bien, parce que finalement, en fait, ça a ça a des effets secondaires sur votre mémoire, en fait. » Et finalement, c'est comme si que ça bouffait un peu votre cerveau, quoi. Et du coup, j'ai fait... Sauf que c'est vous qui me l'avez prescrit. Donc c'est vrai que finalement, c'est une preuve encore aujourd'hui qu'on voit que les médecins, finalement, ils se réfèrent pas du tout à ça, quoi.
Et il t'a prescrit un médicament qui t'a déconseillé par la suite.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas...
Alors moi, je voudrais dire un truc qui va nous amener un peu vers la conclusion, parce qu'il va falloir un peu qu'on conclure sur ce thème aussi. C'est que je pense que c'est deux modèles de soins, deux modèles de médecine qui s'opposent. Je veux dire, un médicament, la plupart des médicaments, comme on dit, ce n'est pas des traitements de fond, ils sont faits pour soigner un symptôme, éliminer un symptôme. Vous avez mal, vous prenez le médicament, vous n'avez plus mal. Vous avez une angine, ou je ne sais pas, vous avez une infection, vous prenez le médicament, il n'y a plus d'infection. Ça ne traite pas la cause. Si on dit, dans la phytothérapie ou l'homéopathie, on considère que si on est malade, certes, il y a une cause symptomatique, il y a un symptôme et une cause directe, mais il y a une cause peut-être plus profonde, quoi. Et peut-être qu'il faut agir sur tel organe, enfin faire des cures pour épurer tel organe qui est un peu trop utilisé ou intoxiqué, enfin des choses comme ça, enfin un traitement de fond, quoi. Et je pense que c'est vraiment deux modèles de soins qui sont opposés. Mais après, faut pas, on a beaucoup insisté sur les médicaments, le côté négatif des médicaments et le côté bénéfique des plantes. Bon, il y a quand même des maladies qui se soignent que par les médicaments chimiques. On va pas tout rejeter non plus en une heure d'émission radio.
Oui, il faut aussi dire que si on est grave malade, je sais pas, par exemple si la peste qui revient, on va pas non plus dire si on a un médicament contre la peste, un médicament du type chimique et des plantes qui peuvent traiter la peste, on va pas dire oh bah non, tiens, je vais continuer à avoir la peste et puis je vais prendre un traitement de fou parce que voilà, faut soigner la cause. Je pense que bon, la peste, je ne pense pas que ça reviendra, mais dans tous les cas, vaut mieux parfois privilégier les médicaments plus ou moins chimiques par les pharmaceutiques.
Mais j'ai une anecdote sur la peste, parce qu'à l'époque, il y avait des voleurs, et ils ont inventé un soin, c'était à l'époque de la peste, hein, il y a plusieurs siècles. Ils détroussaient les morts. Ils détroussaient les morts de la peste, parce qu'à l'époque, ça a été des millions de morts qui traînaient dans les rues, hein, il y a eu des graves problèmes de santé publique et tout ça. Et eux, ils volaient les morts et ils n'étaient pas malades. Et en fait, lors du tribunal, de leur procès, parce qu'ils se sont fait arrêter, on leur a dit qu'ils étaient graciés s'ils donnaient le secret, en fait, du fait de leur immunité. Et en fait, c'est un vinaigre, et on appelait ça le vinaigre des quatre voleurs, qui est un vinaigre à base de plantes, et ils avaient une espèce de gros bec qu'ils mettaient devant leur bouche et leur nez, et qui était rempli, je sais plus, de tissu imbibé de ce vinaigre. Et du coup, eux, ils respiraient ça, et ils n'inhalaient pas les microbes, en fait, les miasmes des malades. Et ils n'ont jamais tombé malades de la peste.
Ah
donc
oui, ouais,
voilà, c'était sur la peste et sur les plantes, comme quoi les plantes peuvent même combattre la peste.
Oui, puis bon, après, je pense aussi que les médicaments, ça rejoint un peu le vaccin. Par exemple, on donne pour les bébés, je crois qu'on leur donne de l'homéopathie, je sais plus vraiment le nom, pour leurs dents. Mais on va pas, pour les vaccins, on va pas leur dire, oh bah non, on va vous donner un traitement de fond, même pour les bébés, parce que bon, le vaccin et tout ce qui est médicaments chimiques, c'est quand même beaucoup plus efficace sur le moment. Après, bon, bah, comme il y a une pub qui dit ça, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, ça marche avec tout. Les médicaments, c'est jamais automatique en général.
Ça rime.
Ah bah voilà, t'as vu ? Il y a quand même des bonnes personnes derrière pour faire le marketing des pharmaceutiques. Du coup, je pense qu'on va peut-être faire une petite pause musicale, non ?
Bah, je pense qu'on va surtout arrêter.
On va surtout arrêter parce que je pense qu'au niveau temps, on est un peu limité. Donc bah du coup, on a conclu sur ce thème, enfin sur cette petite question. Donc on se retrouve dans une prochaine émission.
Voilà, donc personne n'a rien à ajouter. Il reste quelques dizaines de secondes d'émission.
Bah moi, j'ai envie de dire la santé avant tout.
Voilà, faut se soigner. N'oubliez pas, restez couverts. Dans tous les sens du terme. Staring into the sun, which tries to blind us. Dancing forever under the beautiful skies.
Somewhere over the ocean, a spark just to ignite. I'm stuck in my hometown, waiting for your return.
photos that remain. Still lost in oblivion, no one to show the way. There's no sound, only silence.
You